À la fin du XVIIIe siècle, deux physiciens ont fait un petit calcul étrange. À l'époque, on connaissait la vitesse de la lumière, alors en utilisant les lois de la gravitation fraîchement découvertes par Newton, ils se sont demandé s'il était possible que la lumière, malgré sa vitesse faramineuse de 1 milliard de kilomètres par heure, puisse, à cause de la gravitation, se retrouver coincée quelque part. Alors, dit comme ça, je comprends que la question paraisse étrange. Mais on sait tous que plus on lance un objet fort depuis la surface de la Terre, plus il va monter haut. Mais en général, il retombe à cause de la gravitation. Grâce à Newton, on sait même que pour échapper à la gravitation terrestre, c'est-à-dire pour se retrouver dans l'espace sans retomber, il faut, depuis la surface de notre monde, sauter à plus de 42 000 km par heure. Et c'est là, à partir de cette idée, que deux physiciens du XVIIIe siècle, John Michell en Angleterre et Pierre-Simon Laplace en France, se sont demandé s'il pouvait exister un astre quelque part dans l'espace qui serait tellement dense, dont la gravitation serait tellement puissante qu'il faudrait, pour s'en échapper, aller à plus de 1 milliard de kilomètres par heure. Étonnamment, les calculs disaient que oui, c'était possible. En 1783, John Michell a calculé, je vous lis le texte que j'ai traduit un peu librement, ceci. Si on concentrait le Soleil tout entier dans une sphère 500 fois plus petite que sa taille actuelle, alors, à cause de sa propre gravitation, toute la lumière qui tenterait de s'en échapper retomberait vers sa surface comme l'eau d'une fontaine. Quelques années plus tard, Laplace a fait à peu près le même calcul et il a nommé ces astres des astres occlus, car la lumière ne pouvant s'en échapper, on ne peut pas les voir. Malheureusement pour eux, personne n'a écouté Michell et Laplace. Et 100 ans plus tard, au début du XXe siècle, alors que ces astres occlus apparaissent de nouveau dans les équations d'Einstein, rebelote, personne n'a pensé qu'ils pouvaient être réels. Un astre qui avale la lumière, faudrait être fou pour imaginer que ça puisse exister. Quoi qu'il en soit, ils ont depuis été renommés. On ne les appelle plus des astres occlus, mais des trous noirs. Et s'il y en avait, ils seraient apparus comment? Et ils feraient quelle taille? Et est-ce qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, vérifier qu'ils sont là alors qu'il est impossible de les voir? Ce ne sera qu'une toute petite partie des questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec mes trois invités, que voici.
Bonjour, je m'appelle David Elbaz, je suis astrophysicien et pour moi, parler des trous noirs, aujourd'hui, c'est fondamental parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour nous, les trous noirs, c'était la cerise sur le gâteau, un détail. Et là, depuis quelques mois, quelques années, le trou noir est devenu l'objet central de l'étude de l'univers. Une véritable révolution des trous noirs est en cours.
Bonjour, je m'appelle Maïka Clavel, je suis chercheuse CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et je travaille à partir d'observations du ciel à haute énergie afin d'étudier les astres qui se forment lorsque les étoiles meurent. Et parmi eux, les trous noirs sont des objets très intéressants parce qu'ils sont très 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 discrets et donc très difficiles à débusquer. Sauf quand ils rencontrent de la matière et alors là, ça peut donner lieu à des éruptions absolument extraordinaires qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Astier, j'ai beaucoup de métiers mais pas celui d'astrophysicien. J'ai la particularité de ne rien comprendre aux trous noirs, ce qui me permet d'avoir sur ce plateau une position, on va dire, singulière.
Parfait, Alexandre Astier, Maïka Clavel, David Elbaz, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio et nous allons parler trous noirs.
Big Bang. Christophe Galfard.
Alexandre Astier, c'est très bien que vous nous ayez dit que vous n'y comprenez rien au trou noir, parce que je vais vous poser à vous plein de questions.
Mais j'en veux.
Par exemple, est-ce que malgré tout, il y a quelque chose qui pourrait vous intriguer à travers cet astre?
Oui, alors ça va se transformer en question tout de suite. Moi, je croyais avoir compris que la lumière allait à la vitesse de la lumière parce qu'elle n'avait pas de masse. Et que dans l'espace, ce qui n'a pas de masse va donc à la vitesse maximum de l'espace, qui est celle de la lumière. Mais du coup, comment se fait-il que des particules sans masse soient visiblement sensibles à la gravitation?
Ah, c'est une belle question, ça. Vous avez totalement raison sur le fait que la lumière n'a pas de masse. Est-ce qu'un de vous deux voudrait répondre à cette question? David Elbaz, peut-être?
C'est là qu'on a le germe des questions que s'est posé Albert Einstein, et où il a en particulier décrit la gravité comme étant un effet sur la géométrie de l'espace et du temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une pomme se détache de l'arbre, à l'endroit où elle se détache, l'espace est différent de près de la Terre. Il est courbé, il est différent. Par exemple, si on prend une horloge atomique aujourd'hui, qu'on la soulève de 1 cm au-dessus du sol, on voit le temps s'accélérer. Donc ça veut dire que de manière invisible, il y a une espèce de toboggan, là, dans l'espace, qui fait qu'on glisse dessus. Et donc ça n'a plus rien à voir avec la masse.
C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir de l'énergie, que ce soit de la lumière ou de la masse, la gravitation va avoir un effet dessus parce que c'est le chemin que les choses vont emprunter dans un espace qui est fait de collines et de courbes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'école, on nous montre cette théorie de Newton avec des flèches qui sont accrochées à notre nombril et qui nous attirent vers le bas.
Oui.
Dans la vision d'Einstein, ça, c'est une, même pour celle de Newton, c'est une vision pour rendre les calculs pratiques. Mais en réalité, vous le sentez vous-même dans votre corps, la gravitation, elle marche sur vos mains, sur votre tête, partout, et vous tombez le long du toboggan que David Elbaz vient de décrire à l'instant. Les trous noirs existaient dans la théorie de Newton, mais malheureusement, en regardant ça d'un peu plus près, les scientifiques, même il y a une centaine d'années, ont réalisé que la théorie de Newton ne marche pas lorsqu'on essaie d'aller jusqu'au trou noir. En revanche, dans la théorie d'Einstein, ils réapparaissent. Et du coup, on se demande, mais est-ce que ce sont vraiment des objets qui existent ou est-ce que c'est des petits objets mathématiques qui apparaissent dans les calculs? Maïka Clavel.
Alors oui, ce sont des objets qui existent. Et on a commencé à avoir l'intuition qu'ils existaient dans les années 60. Et je vais parler, pour ce qui me concerne, des trous noirs qui sont dans notre galaxie, donc qui sont assez proches de nous. Et donc, on les a découverts un peu par hasard, on ne les cherchait pas. Et on a, donc dans les années 60, il y a commencé à avoir des fusées, enfin, qui étaient plutôt des missiles à l'époque. On a décidé de remplacer les explosifs par des charges utiles avec des instruments scientifiques. Et on a commencé à détecter du rayonnement X, donc du rayonnement très énergétique, qui venait de l'univers. Et donc parmi ces sources, il y en avait une qui est dans la constellation du Cygne. Et donc quand on regardait avec les instruments au sol, en optique, la lumière visible avec nos yeux, on ne voyait rien de spécial, on voyait des étoiles. Mais il y avait cette source X brillante. Et donc les astrophysiciens ont pointé les télescopes beaucoup plus longtemps. Et ils ont fini par trouver une étoile très massive qui tournait. Donc on la voyait tourner, mais elle tournait autour de quelque chose qu'on ne voyait pas. Et donc à partir de l'orbite de cette étoile, ils ont déterminé la masse de ce qu'on ne voyait pas, qui est maintenant évaluée à une vingtaine de fois la masse de notre Soleil. Et donc cette chose-là qu'on ne voyait pas ne pouvait être rien d'autre qu'un trou noir. Et donc c'est la première preuve que les trous noirs existent. Et donc c'est le premier trou noir qui a été découvert dans notre galaxie, pas très loin de nous.
J'ai deux petites choses assez marrantes à dire avec ce trou noir-là. La première, c'est que là, vous disiez à l'instant que c'était un missile qui a été lancé dans le haut de l'atmosphère pour détecter ces signaux. Parce que le ciel de la Terre, l'atmosphère de la Terre, bloque, heureusement pour nous, tous les rayons X qui viennent de l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se faire une radio en permanence, c'est bloqué par le ciel. Donc si on veut détecter ces rayons qui sont ultra énergétiques, il faut qu'on aille haut dans le ciel, au-dessus du ciel. Et c'est ce que ces satellites ont fait dans les années 70. Je crois que quelques années après, ils ont envoyé carrément un autre satellite dans l'espace, Uhuru, de voilà. Mémoire, s'appelait ce satellite, pour regarder ce sinus X1, qui est la première source rayon X dans la constellation du Cygne. Et ce que je trouvais rigolo par rapport à ce signal, c'est qu'il se trouve que mon directeur de thèse de doctorat, qui s'appelait Stephen Hawking, avait fait un pari à ce moment-là, avec un autre scientifique qui s'appelle Kip Thorne, Stephen Hawking disant « Il ne peut pas y avoir un trou noir à cet endroit-là, mais je pense, espérant secrètement qu'il y en avait un. » Alors que Kip Thorne disait « Mais si, bien sûr qu'il y en a un. » Et ce que vous venez de nous raconter, c'est que Kip Thorne a gagné son pari et qu'il y avait effectivement un petit trou noir à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que des rayons X émanent de ce genre d'endroit?
Alors, si le trou noir est tout seul, il ne se passe rien, on ne voit rien. Par contre, s'il y a de la matière à proximité, et là c'est le cas parce que je vous ai dit, il y a une étoile qui tourne autour, et cette étoile est tellement grosse qu'en fait il y a une partie de la matière de cette étoile qui s'approche proche du trou noir et qui va être accrétée, donc qui va tomber en direction du trou noir, et elle va s'enrouler autour du trou noir, former ce qu'on va appeler un disque d'accrétion, donc vraiment comme un disque, comme un vinyle tout plat. Et donc la matière dans ce disque va chauffer à très très haute température, à des millions de degrés Kelvin, Celsius, c'est pareil à ce niveau-là. Et donc ça va émettre en rayon X. Et puis, dans certains cas, on va aussi voir des particules qui sont accélérées, ça va former des jets, des vents, et ça aussi, ça va rayonner en rayon X, parce que les particules vont très 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 vite.
Alors on peut se demander, déjà, un, si c'est dangereux, deux, s'il y en a beaucoup dans notre galaxie. Alors avant de vous demander, Alexandre Astier, une estimation du nombre de petits trous noirs dans notre galaxie, comme ça, je vais vous demander, David Elbaz, est-ce que vous pourriez juste nous décrire, avant d'en dire trop, hein, pour ne pas répondre à cette question tout de suite, nous décrire ce qu'est une galaxie?
Alors, une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles qui sont soudées par la gravité, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas en sortir. Et de la matière interstellaire, on a mis longtemps à accepter le fait que l'espace n'était pas vide, qu'il y avait de la matière interstellaire. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand ça a été découvert en 1904 par quelqu'un qui s'appelle Hartmann, la première chose qu'il a trouvée dans la Voie lactée, c'est du calcium. Donc on nous dit de boire du lait pour avoir du calcium, et on a trouvé du calcium dans la Voie lactée. Bon, et personne ne l'a cru d'ailleurs. Il a fallu attendre 1930 pour qu'on le comprenne. Et puis, il y a aussi, on pense, une forme de matière qui ne fait pas de lumière, qu'on appelle de la matière noire, qui fait de la gravité. Donc, la Voie lactée, c'est d'abord des étoiles, du gaz, et puis de la matière noire. Et puis, il y a ces objets extraordinaires, les trous noirs. Et parmi eux, et je ne dirai pas le nombre, il y a ce qu'on appelle les trous noirs rogue, ou les free-floating black holes, des trous noirs qui volent et qui se déplacent dans notre galaxie, et qui sont au nombre de... Ah, je ne peux pas le dire.
Non, vous ne pouvez pas, merde. Peut-être une première estimation.
Ouais, je ne sais pas, alors, combien d'étoiles on a dans notre galaxie ?
300 milliards.
300 milliards, on est d'accord que les trous noirs, c'est des étoiles qui meurent, enfin, c'est la suite de ça.
On va demander ça à Maïka Clavel dans un instant.
C'est... Bon, mais non, mais je suis celui qui est... Voilà, je suis désigné pour être ridicule. Tenons notre rôle, on va dire 1 milliard.
Maïka Clavel, avant de donner la réponse à cette question, comment se forment les petits trous noirs que vous avez décrits tout à l'heure, les trous noirs stellaires ?
Les trous noirs stellaires. Alors on pense que les étoiles très massives, donc très massives, ça veut dire au moins 30 fois la masse de notre Soleil, qui est une étoile tout à fait standard. Et donc si l'étoile fait plus de 30 fois la masse de notre Soleil, elle va vivre beaucoup moins longtemps que notre Soleil. Donc c'est des étoiles qui vivent typiquement quelques millions d'années. Et au bout de quelques millions d'années, elle va éjecter son enveloppe externe et le cœur de l'étoile va s'effondrer et va former un trou noir qui est moins massif que l'étoile initiale, mais
qui est là, qui est un trou noir qu'on appelle de masse stellaire, donc qui fait en gros un peu moins de 10 fois la masse du Soleil, c'est ça ?
Bah oui, c'est ça. En gros, au-delà de 3 fois la masse du Soleil, on considère que ça ne peut être qu'un trou noir. Et le plus massif qu'on ait détecté, qui peut être formé via ce canal-là, c'est à peu près 20 fois la masse du Soleil.
Alors, des étoiles géantes comme ça, qui peuvent exploser, je crois qu'il y en a environ 1% des étoiles de notre Voie lactée. Alexandre Astier, vous n'êtes pas loin du tout. Mmh. Il y a entre 1 et 3 milliards de petits...
Ah, pas mal !
Bon, on peut l'applaudir quand même. Hein.
Pas mal !
C'est très bien parti. Très
donc
bien
on est d'accord parti. qu'une étoile plus petite que tout ça ne peut pas former de trou noir quand elle meurt. C'est ça ?
Voilà.
Okay. Absolument.
Le Soleil ne formera pas de trou noir.
Donc elle forme quoi ? Il y a une supernova, il y a une explosion quand même, il y a...
Alors celles qui sont plus massives, donc 8 fois la masse du Soleil, ça va former ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc c'est moins... Non.
Ils sont pas d'accord. Oh, ils sont pas d'accord. Bagarre, bagarre.
Ça va être sanglant. Je sens que ça va être sanglant. Mais
en gros,
pour les chiffres exacts, on va y venir peut-être dans un instant. Mais en gros, suivant la taille de l'étoile de départ, on voit s'il y a suffisamment d'énergie ou de résistance dans le cœur pour voir si la gravitation l'emporte ou une autre force peut empêcher l'effondrement sur elle-même. Pour une étoile comme le Soleil, la création, la fusion des atomes qui sont dans le cœur des étoiles et qui font qu'elle brille est suffisante pour que notre étoile ne bouge. C'est notre étoile qui nous illumine, ne bouge pas, ne change pas de taille. Mais ce que vous disiez, Maïka Clavel, c'est que dès l'instant où on augmente la taille des étoiles, la gravitation peut devenir beaucoup plus forte. Et être plus forte que
après,
la gravitation.
Le Soleil va quand même un peu s'effondrer. Enfin, bref.
Oui, parce que les étoiles ont une espérance de vie.
Voilà, c'est ça. Le Soleil, il consomme son énergie, qui est l'hydrogène. Et donc, à un moment, ça va s'arrêter. Ça va quand même former autre chose qui va, dans le cas du Soleil, être une naine blanche. Donc, c'est quand même une étoile beaucoup plus chaude que le Soleil. C'est juste le cœur de l'étoile. Donc, ça va être un petit Soleil. Enfin, c'est pas un Soleil.
Une petite étoile qui va briller.
Qui va briller et se refroidir progressivement.
Qui a des centaines de millions de degrés.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil, là, maintenant, ce qui fait qu'il rayonne, c'est qu'il perd 4 millions de tonnes à chaque seconde. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je n'arrive pas à perdre un kilo en 3 ans. Et le Soleil perd 4 millions de tonnes à chaque seconde. Alors, on pourrait se dire que c'est beaucoup. Mais c'est rien par rapport à sa masse. Et puis au bout d'un moment, il aura épuisé son réservoir nucléaire et donc il n'aura plus la capacité de rayonner par les fusions nucléaires assez d'énergie pour contrebalancer la gravité. Et c'est là où il va s'effondrer. Et donc ça fait une espérance de vie de 10 milliards d'années pour un Soleil et pour une étoile qui fait un dixième de la masse du Soleil. C'est beaucoup plus long que l'âge de l'univers depuis le Big Bang. Donc celles-ci, elles sont toujours en pleine santé. Et
c'est puis ce les qu'on plus massives, les naines rouges. par exemple, qui... J'adore ces naines rouges parce que pour la simple raison, c'est ce que vous venez de dire, et je trouve ça extrêmement poétique, qu'on n'a jamais vu mourir une naine rouge depuis que notre univers existe, vu qu'elles vivent peut-être des centaines de milliards d'années et continueront à briller. Mais prenons les étoiles plus grosses encore, David Elbaz. Celles-là ont tellement de masse à l'intérieur d'elles-mêmes qu'une petite explosion à la fin de leur vie peut peut-être avoir un effet dramatique sur leur cœur.
Alors, c'est à la fois, c'est ça qui est extraordinaire dans l'univers, c'est que ce qui produit de la mort produit aussi de la vie. Donc, à la fin de la vie d'une étoile, par exemple, qui fait plus que 8 fois la masse du Soleil, elle va exploser. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle explose ? Elle crée une onde de choc qui comprime la matière autour. Et on observe des naissances d'étoiles et de systèmes solaires dans le pourtour des morts d'étoiles. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on pense que notre système solaire, là, maintenant, est né de la mort d'une autre étoile qui a explosé. Donc ça veut dire qu'à l'endroit où on se trouve là, il y avait une étoile qui a explosé. Et on ne serait pas là si l'étoile n'avait pas explosé. Et le fer de notre sang, qui nous permet de respirer, est né dans l'explosion de cette étoile et d'autres étoiles qui ont explosé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce cycle de vie et de mort dans l'univers. Et les plus grosses étoiles, nous, on aime bien le fait qu'elles ne vivent pas longtemps. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'univers, tout a l'air d'être éternel dans le temps. Mais si on voit une étoile qui fait 10, 20 fois la masse du Soleil, comme son espérance de vie de moins de 10 millions d'années, c'est qu'elle vient de naître. Et donc grâce à ça, nous, notre métier au quotidien, c'est de trouver le nombre de ces étoiles-là, et on sait qu'elles viennent de naître, puisqu'elles étaient là il y a 10 millions d'années. Et donc on peut voir le rythme de naissance des étoiles.
Et grâce à ça, on peut savoir aussi qu'il y en a les étoiles les plus gigantesques qui s'effondrent sur elles-mêmes, voilà. Donnent naissance à ces petits trous noirs qui sont
au-dessus, voilà, de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Toutes celles-là vont laisser des cendres qui vont être des trous noirs, soit qui flottent dans la Voie lactée, soit qui vont nourrir le centre de notre galaxie où il y a un trou noir encore plus massif.
Ça, on en parlera dans quelques instants. Alexandre Astier, ça vous inquiète les trous noirs ou pas ? Parce qu'il y en a 1 milliard, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup quand même.
Ouais, on a une photo, on est bien d'accord qu'on a une photo d'un trou noir.
On en a même deux.
Deux ?
Oui.
J'en ai qu'une, moi. J'en ai plus qu'une. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer vite fait comment est-ce qu'on prend une photo de quelque chose qui ne met pas de lumière ?
Oui, tout à fait. Mais justement, j'avais vu que vous aviez dit vous-même qu'il y en a 1 milliard autour de nous, oui. Et que vous avez fait flipper tout le monde. je voulais en venir et après on viendra à la réponse à cette question-là. Ah oui, ils sont ces trous noirs qui sont... S'il y en a 1 milliard, dans notre galaxie à nous, ils sont où ? On a un moyen de les détecter, Maïka Clavel, et est-ce qu'on sait quels sont les plus proches de nous ? Parce que je crois que les derniers ont été découverts ces dernières années.
Alors, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le milliard de trous noirs qu'on attend dans notre galaxie, on en connaît une 20aine pour sûr, et on a une 50aine de candidats trous noirs, où on pense que c'est des trous noirs, mais on n'a pas la preuve formelle que ce sont des trous noirs. Donc, il y en a la majorité... On ne sait pas trop où ils sont. Mais pour ceux qu'on connaît, donc il y a les rayons X qui ont beaucoup aidé à découvrir des trous noirs. C'est le canal de détection principal donc que j'ai expliqué au début avec Cygnus X1. Donc on a des satellites autour de la Terre qui regardent le ciel et qui nous disent quand il y a des éruptions. Et comme ça, on peut aller voir ces objets-là et les découvrir. Et puis, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus récente et qui a donné des résultats effectivement très récemment avec la mission Gaïa. Donc la mission Gaïa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle officie dans le domaine visible. Donc c'est vraiment elle regarde les étoiles et elle regarde toutes les étoiles qui sont dans notre galaxie. Donc elle a détecté plus d'1,8 milliard d'objets dans notre galaxie et elle mesure la position des objets de manière très 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 précise, tellement précise que justement pour certains objets on arrive à voir ces étoiles qui tournent. Donc des fois elles tournent autour des étoiles, c'est le plus fréquent, courant, ouais. Donc on voit les deux étoiles qui se tournent autour, mais dans certains cas on voit une étoile qui encore une fois tourne autour de rien. Et donc dans le cas de Gaïa, avec les premières données qui ont été publiées, il y a 3 nouveaux trous noirs qui ont été détectés, dont 2 sont les plus proches de la Terre, donc ils se situent à 1,5 millier d'années-lumière, donc c'est quand même loin. Et le trou noir le plus massif, le trou noir stellaire le plus massif qu'on ait découvert dans notre galaxie, qui est fait 30 fois la masse de notre Soleil, qui est donc un des plus proches également.
1500 années-lumière, c'est-à-dire que si vous passez un petit coup de fil à quelqu'un qui est là-bas, à côté de ce trou noir-là, votre halo va voyager dans l'espace pendant 1500 ans avant d'arriver à sa destination. Gaïa, je précise juste, ce satellite dont vous avez parlé, c'est un satellite européen qui a été envoyé dans l'espace et qui regarde notre galaxie à la recherche de trous noirs. Juste après la petite musique que nous allons écouter, nous allons partir au centre de nos galaxies pour aller à la recherche des trous noirs les plus massifs de notre univers. Naïf de cœur de Sébastien Tellier va nous mettre dans l'ambiance. Nous venons d'écouter Sébastien Tellier, Naïf de cœur, et nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, le réalisateur Alexandre Astier, l'astrophysicien David Elbaz et l'astrophysicienne Maïka Clavel, et évidemment le public du studio 621.
Christophe Delphard, Big Bang.
Alors vous n'étiez pas content, Alexandre, parce que j'ai oublié quelque chose, peut-être ?
Oui, enfin, ça me donne l'occasion d'être de mauvaise humeur, c'est tout. Hein.
Normal, normal. Mais non, mais
comment prend-on en photo quelque chose qui ne fait pas de lumière ? Comment prend-on en photo un trou noir ?
Eh bien, je ne compte pas vous répondre,
okay,
voyez-vous.
Ok, très bien. Si.
Je vais vous répondre, mais je fais juste une petite introduction à ce qui va venir maintenant. Parce que dans notre univers, il existe, disons, trois types de trous noirs, qui sont légèrement différents les uns des autres et qui ont peut-être des origines différentes, allez savoir. Ces trois types, c'est en fonction de leur taille. Il y a les trous noirs qui, peut-être, sont minuscules et seraient apparus quasiment au Big Bang, disons, il y a extrêmement longtemps. On les appelle des trous noirs primordiaux. Ils pouvaient vraiment être minuscules au départ et ils ont peut-être grossi derrière. Cela, jusqu'à quelques temps, on n'en avait jamais détecté, même pas de traces. Pourtant, Stephen Hawking les avait prédits dans les années 70, mais aucune trace. On va y revenir dans un instant avec David Elbaz. Ensuite, il y a les trous noirs stellaires, ceux dont Maïka Clavel vient de nous parler, qui font à peu près la taille d'une étoile. En quelques dizaines, jusqu'à une dizaine ou deux fois la masse du Soleil. Et enfin, il y a les trous noirs qu'on appelle supermassifs, qui eux peuvent faire plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et la façon de les détecter ou de les prendre en photo est différente. Les seules photos qu'on ait directes, ce sont des photos des trous noirs supermassifs. Mais David Elbaz, j'aimerais bien qu'on dise un petit mot de ces trous noirs primordiaux qui, apparemment, ont peut-être été détectés là, ce qui aurait fait extrêmement plaisir à Stephen Hawking. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut avoir la moindre idée d'une telle découverte ?
Oui. Alors déjà, pour dire juste un mot supplémentaire sur comment on fait pour faire l'image d'un trou noir. Au centre d'une galaxie, il y a tellement de matière que la lumière est absorbée. Donc, il faut regarder dans des très, très grandes longueurs d'onde, dans le millimétrique. Et ce qu'on peut voir, c'est l'ombre du trou noir. Et pour ça, on a mis 7 observatoires sur toute la surface terrestre pour arriver à voir l'ombre d'un trou noir. Et c'est comme ça qu'on a vu ces images de trous noirs. Donc, ces trous noirs galactiques, maintenant, on sait qu'ils existent. Et la révolution du James Webb, c'était qu'il était prévu pour aller voir les premières étoiles, les premières galaxies. Et la question du James Webb, c'était qu'est-ce qui est né en premier, l'étoile ou la galaxie? Et ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il est en train de dire peut-être ni l'un ni l'autre, peut-être le trou noir. Donc là, on se disait, tiens, des trous noirs sont nés, peut-être 150 millions d'années après le Big Bang. Puis au mois de septembre dernier, donc il y a quelques semaines, sort un article qui montre qu'on voit de la matière qui tourne autour d'un centre, pareil que tout à l'heure on disait pour les étoiles, mais cette fois, c'est une galaxie tout entière, et il faut invoquer la présence d'un trou noir de 30 millions de masses solaires, 700 millions d'années après le Big Bang. Alors vous allez me dire, bon, peut-être que ça a eu le temps de le faire, et c'est ce qu'on pensait aussi, peut-être. Sauf que dans cette galaxie, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'étoiles. Ou peut-être autant de masse que le trou noir. Ça veut dire qu'on fait un trou noir par les cendres d'étoiles, mais comment fait-on un trou noir par des cendres d'étoiles s'il n'y a pas d'étoiles? Et là, conclusion de l'article, ce trou noir ne peut pas s'expliquer à l'heure actuelle par toutes les théories qu'on a. La seule explication possible, c'est que son germe soit né au moment du Big Bang.
C'est-à-dire avant que les premières étoiles ne se mettent à briller. Dans un moment où notre univers était une soupe d'énergie extrêmement dense, et par endroits, des petits bouts minuscules ont pu s'effondrer sur eux-mêmes pour donner ces germes-là. Alexandre, vous voyez, pour commencer et continuer à répondre à votre question, ces trous noirs-là, on les voit, comme vient de le dire David Elbaz, grâce à un de nos télescopes les plus puissants qu'on ait jamais inventé, qui s'appelle le James Webb, et qui, lui, regarde des choses qui sont bien plus loin que tous nos télescopes précédents ont jamais pu voir. Donc peut-être que les trous noirs primordiaux ont existé, peut-être que ce sont eux qui ont donné naissance aux galaxies comme la nôtre, et peut-être que ce sont eux qui ont donné naissance aux trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies et auxquels David Elbaz faisait allusion à l'instant. Notre galaxie à nous possède, Maïka Clavel, un trou noir géant en son centre. Il n'y a pas que des petits trous noirs un petit peu partout. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, ce trou noir?
Tout à fait. Alors, c'est un trou noir qui est en train de dormir. Il émet très, très peu d'émissions, parce qu'il y a probablement très peu de matière qui tombe dedans. Et c'est un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse de notre Soleil et qui a été mis en évidence, encore une fois, par le mouvement des étoiles qui tournent autour de lui. Donc pendant 20 ans, il y a des télescopes à la fois aux États-Unis et les télescopes européens au Chili qui ont mesuré les positions des étoiles au centre de notre galaxie de manière très très précise. Et ils ont vu en particulier une étoile qui faisait une orbite tous les 16 ans. Et donc ils ont pu déterminer la masse de l'objet qui se trouvait au cœur de cette orbite et déterminer le volume maximal que pouvait avoir cet objet. Donc c'était l'équivalent de 4 millions de soleils à l'intérieur de notre système solaire. Et ça ne pouvait être qu'un trou noir. Et ça a valu le prix Nobel de 2020.
Alexandre Astier.
Moi, j'ai une petite question de néophyte, mais enfin, je suis là pour ça quand même, on est d'accord?
Absolument.
Moi, je vous pose une question à tous les trois. On est en train de parler de trou noir et donc de masse. On parle de masse, on parle de volume, on parle de tout ça. Si c'était à refaire, est-ce que vous appelleriez ça des trous?
Alors, c'est une très, très bonne question.
Parce que ça invite tellement à penser à du rien.
Oui.
Et c'est tellement pas du rien que pour les néophytes dont je suis, c'est
un peu
délicat.
Je pense que la réponse que va nous donner David Elbaz n'est pas nécessairement pour les enfants, mais on va l'écouter quand même.
Non, si. En fait, ça fait longtemps qu'on se demande pourquoi on appelle ça des trous, puisque c'est tout plein. Et en fait, c'est historique. C'est historique. Il y a un article qui a été publié récemment par deux astrophysiciens qui sont remontés à l'histoire du nom trou noir. En fait, ça remonte à 1756, quand le nabab du Bengale, qui s'appelle Siraj ud-Daulah, a enfermé plus d'une centaine d'Anglais dans une prison. Et ces Anglais étaient enfermés dans une prison si petite qu'ils étaient tous comprimés les uns sur les autres. La lumière ne pouvait pas passer. On l'appelait le trou noir de Calcutta. La plupart ne sont pas ressortis vivants. Ça a traumatisé l'Angleterre, qui a utilisé cet argument pour envahir davantage les Indes. Bien plus tard, un astrophysicien, Robert Dickey, donne une conférence. Et il dit, dans l'univers, il existe des concentrations de matière si denses que même la lumière ne peut pas en sortir. C'est tellement compliqué à expliquer qu'il dit, c'est comme le trou noir de Calcutta. Paf, une journaliste qui
l'erreur est faite.
Voilà. Et le mythe des trous noirs est né.
Parce que ce qui est amusant, la partie qui n'était pas accessible aux enfants, je vais la faire moi. Les astres occlus, comme ils étaient appelés en France depuis Laplace, par exemple, depuis la naissance de cette notion, et c'était le nom officiel par l'Académie des sciences françaises. Et le mot trou noir, qui a été accepté par les chercheurs en particulier, l'a été suite à un article qui a été publié par un Américain qui s'appelle John Archibald Wheeler. Et lorsque c'est arrivé jusqu'à l'Académie des sciences en France, l'Académie a dit on va quand même pas appeler ça un trou noir, c'est obscène, c'est écrit comme ça, on peut pas
le journal. Le journal a refusé l'article à John Wheeler. Et il a insisté, il a gagné.
Voilà, l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, on appelle ça trou noir. Et ce qui est assez amusant...
Les trous noirs n'ont pas de poils.
Ça, c'est venu juste après, justement, parce qu'il y a une série de théorèmes sur les trous noirs qui sont arrivés ensuite par, notamment, Stephen Hawking en Angleterre. C'est la série des No-Hair Theorems. C'est la théorie qui dit que les trous noirs n'ont pas de poils. Et étonnamment, faisant partie de cette série de théorèmes, certaines observations de cet été ont une fois de plus prouvé que les théorèmes de Hawking de l'époque étaient absolument corrects. Notamment grâce à une manière de détecter non pas les trous noirs directement, mais des trous noirs qui se rentrent dedans et qui créent quelque chose d'absolument particulier. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça, Maïka Clavel ?
Oui. Alors en 2015, on a détecté ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles qui résultent de la fusion de deux trous noirs. Donc on a parfois des trous noirs, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'étoiles qui tournent autour de trous noirs, mais des fois c'est des trous noirs qui tournent autour de d'autres trous noirs. Et si ces trous noirs sont suffisamment proches, ils finissent par se rentrer dedans et fusionner, former qu'un seul trou noir. Et ça fait vibrer l'univers, donc l'univers se contracte et se décontracte. Et donc quand ça passe sur la Terre, ça contracte un peu la Terre et ça détend la Terre. Au passage de l'onde. Et on a mis en place des détecteurs, donc il y en a deux aux États-Unis, un en Italie et maintenant un au Japon, qui ont des bras extrêmement grands, qui font 3 ou 4 kilomètres de long, et qui permettent de mesurer très précisément la contraction de la Terre au passage de ces ondes. Et donc en 2015, on a détecté la première fusion de trous noirs, comme ça. Donc ce sont des trous noirs de masse stellaire, mais qui sont détectés dans d'autres galaxies qui sont très très loin de la nôtre.
Je crois que celle de 2015, l'onde, pour arriver jusqu'à nous, a traversé l'espace et le temps pendant plus d'un milliard d'années.
Exactement.
Avant d'arriver jusqu'à nous. Et c'était deux trous noirs qui faisaient 25 environ fois la masse du Soleil pour former du coup un trou noir plus gros au plus final. Gros. Et au départ, on se disait que c'était grâce à des petits trous noirs qui se rentrent dedans en permanence qu'on formait des trous noirs plus gros. Bon, ça, on arrive à comprendre pour 100, peut-être parfois 1000 fois la masse du Soleil, mais ça ne nous amène pas à ces milliards de fois ou centaines de millions de fois la masse du Soleil qu'on trouve au centre des galaxies. David Elbaz, est-ce que ces trous noirs géants là, qu'on trouve au milieu des galaxies, ils peuvent avoir un impact sur l'évolution des galaxies? Vous disiez tout à l'heure que ce qui détruit peut aussi donner naissance à quelque chose. Il me semble que parmi vos travaux personnels, il y a un impact qui est tout particulièrement amusant, je trouve.
Oui, parce qu'il y a des systèmes où on a observé que la matière qui était éjectée par le trou noir, en fait c'est la matière qui tourbillonne autour et qui est propulsée, peut comprimer la matière autour, et comme ce que je disais tout à l'heure pour une étoile qui engendre d'autres étoiles, peut engendrer des naissances d'étoiles. Et ça, on a observé des flambées d'étoiles comme ça.
C'est-à-dire qu'à côté d'un trou noir qui est en train de manger des étoiles, d'autres étoiles naissent.
Voilà, exactement. Et maintenant qu'on a découvert avec le James Webb que les trous noirs, qu'on appelle supermassifs, ces noyaux de galaxies, sont présents dans les galaxies au tout début de l'histoire, eh bien, on se demande s'ils ne participent pas à leur naissance. Et d'ailleurs, les galaxies sont beaucoup plus fertiles que tout ce qu'on pensait, 10 à 100 fois. Donc certains proposent que les trous noirs accélèrent la formation des galaxies. Dit autrement, aujourd'hui, on accuse beaucoup les trous noirs d'être des tueurs de galaxies parce qu'il y a des galaxies qui sont stériles, qui ne forment plus d'étoiles et qui ont en leur cœur juste un trou noir et on se dit c'est peut-être lui qui a tué les galaxies. Pour moi, c'est la même chose que de dire lorsqu'on voit un abricot desséché au pied d'un arbre avec un noyau, il a été tué par le noyau. Eh bien, maintenant qu'on voit que les noyaux sont là depuis le début de l'histoire de l'univers, il semblerait que les trous noirs participent aux naissances des galaxies. Et donc, ils jouent un rôle central. C'est un peu ça que je voulais dire au début. Pour moi, les trous noirs, c'est le chaînon manquant pour comprendre la fertilité de la naissance des galaxies au tout début de l'histoire de l'univers. On en est encore qu'au balbutiement, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur le rôle des trous noirs.
Je vais vous donner une image, Alexandre Astier, qui peut vous plaire et peut-être vous donner l'idée d'un film de science-fiction un jour.
Allons-y, je suis preneur.
Prenez une galaxie dans votre tête, c'est-à-dire une sorte de spirale avec des milliards d'étoiles, ou pas forcément spirale, mais on va la prendre comme ça, et au centre, un trou noir On les appelle géants, mais en taille, ils sont minuscules. On ne les voit pas vraiment sur les photos, sauf, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, vu que c'était votre question, lorsqu'on prend plein d'appareils de partout et qu'on essaye de récolter de la lumière, on a réussi à prendre une photo du trou noir qui est au centre de notre galaxie, ainsi que le trou noir qui est au centre d'une autre galaxie qui s'appelle M87, qui se trouve à plus de 50 millions d'années-lumière de la nôtre et qui, lui, fait 6 milliards de fois la masse de notre Soleil. De temps en temps, on voit, dans l'espace, des galaxies se rentrer dedans. On voit aussi que les trous noirs se rapprochent les uns des autres, des trous noirs gigantesques. On les voit même parfois le résultat de leur collision. Mais il y a une image du télescope Hubble que je trouve particulièrement fascinante. Vous imaginez deux trous noirs se tourner l'un autour de l'autre, gigantesques, au centre d'une galaxie, mais ils arrivent l'un vers l'autre tellement vite qu'au lieu de se rentrer dedans, ils sont éjectés. Et l'un des deux est éjecté à l'extérieur de la galaxie. On a une image d'un trou noir qui est éjecté de sa galaxie et qui a une traînée derrière lui d'étoiles qui sont en train de naître, comme le racontait tout à l'heure David Elbaz. Donc si vous avez envie de mettre une histoire sur de gens qui habiteraient sur une de ces étoiles, ils sont fichus, hein, ils n'ont aucune chance de vivre très longtemps parce qu'il n'y aura plus rien bientôt autour d'eux, aucune protection contre rien. Mais ça en fait des objets qui sont complètement fascinants, moi je trouve.
C'est comme ça qu'on envoie des objets humains très loin aussi. On fait faire des swings autour de masse. Donc en fait, ça attire, mais ça éjecte aussi.
Absolument. Oui, tout à l'heure, on parlait de jets qui partent des trous noirs. Alors on pourrait croire qu'un trou noir, c'est quelque chose dans lequel tout tombe. D'ailleurs, le mot trou noir, vous vous demandez si on l'appellerait de la même manière aujourd'hui, c'est un objet gravitationnel. Mm-hmm. Donc si on n'est pas loin, eh ben, on est attiré vers lui. On tombe. Comme la lumière n'en sort pas, il est noir. Ça fait un trou noir. On pourrait se dire que rien ne peut en sortir. Mais les jets dont parlait David Elbaz, est-ce que vous voulez nous réexpliquer, peut-être, ou nous expliquer oui. comment ces jets apparaissent ?
En fait, lorsque la matière tombe, elle ne tombe pas en ligne droite vers le centre, donc elle se met à tourner. Et quand elle tourne, elle chauffe à des millions de degrés, ce qui fait que les électrons sont éjectés, ça fait des courants électriques. Et donc là, on a de la matière qui tourne à une très grande vitesse, qui fait un champ magnétique, et ce champ magnétique propulse la matière au niveau des pôles, dans des grands jets très puissants qu'on voit partir sur des millions d'années-lumière et qui partent des galaxies et qui viennent envoyer de la matière un peu partout. Donc effectivement, c'est toujours la même chose, c'est ce paradoxe, c'est qu'il y a la matière qui tombe vers le centre et en même temps, il y a la matière qui part très loin. C'est ça que j'adore le plus en astrophysique, c'est que pour faire un trou noir, il faut qu'une étoile fasse autant de lumière qu'un milliard de soleils quand elle explose pour devenir un trou noir. Et quand on cherche les plus puissantes sources de lumière dans l'univers, eh ben au centre, il y a toujours un trou noir qui font les quasars. Il y a toujours ce principe yin-yang qui est là. C'est presque un guide pour comprendre la nature de ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, cette principe de complémentarité. Moi, j'adore cette idée qu'on peut s'appuyer comme ça sur des principes un peu philosophiques pour aborder l'inconnu.
Maïka Clavel, est-ce que vous avez un trou noir préféré ?
Alors moi, mon trou noir préféré, c'est le trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie, puisque j'ai fait ma thèse dessus. Et c'est un trou noir qu'on peut étudier de manière très rapprochée, parce qu'il est à 27 000 années-lumière de nous, mais comme vous l'avez dit, il est très gros, donc en taille apparente, c'est un des deux trous noirs dont on a pu faire l'image. Et puis on voit également son environnement proche. Et donc ça permet de comprendre son cycle d'activité, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a de la matière qui est susceptible de tomber dedans, ou des étoiles, et d'étudier l'impact que l'activité du trou noir a eu aussi sur les régions au centre de notre galaxie.
C'est ça, il a un petit nom, on peut connaître son nom,
bien sûr, on l'a tué jusqu'à présent.
Il s'appelle Sagittarius A étoile, parce qu'il est dans la constellation du Sagittaire, et étoile, c'est parce qu'au début on ne savait pas que c'était un trou noir, mais les gens qui l'ont découvert, on pensait que c'était une source qui allait être excitante.
Oui, mais on garde toujours les anciens noms. Trou, c'est pas un trou, mais on le garde. Supernova, c'est pas nouveau, mais on le garde quand même. C'est quand même dingue, cette histoire. Vous ne changez jamais d'avis.
Non.
Ok.
Et est-ce que ça vous va si, pour partir sur cette compréhension générale, nous écoutions Black Hole, qui veut dire trou noir, de Jimmy Tenor.
Je reste alerte.
Yeah.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, l'astrophysicienne Maïka Clavel, l'astrophysicien David Elbaz et le réalisateur Alexandre Astier, et évidemment le public du studio 621 qui se prépare à poser ses questions sur les trous noirs.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Nous avons une première question de Michael.
Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous l'importance des images de James Webb pour la science ?
David Elbaz.
Je dirais 12. Donc, en fait, effectivement, c'est un peu comme si, mais vraiment, on avait un sous-marin qui peut pour la première fois plonger au fond de l'océan. Et on découvre des nouvelles espèces de poissons qu'on n'avait encore jamais vues, qui changent notre vision de l'histoire de la vie. Avec le James Webb, on est allé au fond de l'océan cosmique, donc tellement loin dans l'espace qu'on est allé dans des périodes de temps qu'on n'avait jamais vues. Et on a découvert des nouvelles espèces de poissons. Pour vous dire à quel point on ne sait pas ce que c'est, ces trucs ressemblent à des petits points rouges. Vous savez comment on les appelle ?
C'est un terme très 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 technique.
Très technique, des petits points rouges. Little red dots en anglais. C'est pour vous dire à quel point ces trucs-là, on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être un trou noir gigantesque entouré d'un gaz très dense, ou une étoile de 100 000 masses solaires, ou 100 milliards d'étoiles concentrées les unes avec les autres. Ça, c'est juste un des trucs. On voit que les galaxies sont 100 000 fois plus fertiles que ce qu'on pensait. On voit que les trous noirs sont partout au début de l'histoire de l'univers. Au moment où je vous parle, on a des débats infinis sur ce qu'a vu le James Webb. Chacun a compris. Mais sauf que chacun a compris autrement, donc on n'a pas compris.
Nous avons une deuxième question d'Agathe.
Oui, si un trou noir flotte ou est éjecté vers la Terre, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Qu'est-ce qu'on voit ?
Ça, alors, c'est vous qui les avez inquiétés, Alexandre, tout à l'heure.
J'en étais sûr. Ouais, et en plus, j'ai l'impression que la réponse n'est pas chouette. Mais bon, on va voir, mais à mon avis, ce n'est pas bon.
Maïka Clavel.
Alors, a priori, il ne va rien se passer de mal, sauf s'il passe vraiment très 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 proche de la Terre. Mais s'il reste à une distance raisonnable, même s'il traversait le système solaire, ça pourrait pas trop mal se passer pour nous. Et ce qu'on verrait, c'est des effets de l'antigravitationnel dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que le trou noir, on a dit qu'il déviait la lumière. Et donc, si on passe un trou noir devant un champ étoilé, donc s'il y a un trou noir qui passe dans le ciel suffisamment proche de nous, on va voir bouger les étoiles au moment où il passe, comme si un peu on passe, quand on passe une loupe devant un texte, on voit le texte qui bouge et qui grossit. Donc, ça fait un peu des effets comme ça. Et donc, si le trou noir est suffisamment gros et suffisamment proche, on pourrait voir ces effets de l'antigravitationnel avec un télescope.
Et je pense qu'Agathe aussi aurait aimé savoir si le trou noir nous rentre pile poil dedans.
Là, je pense que ça se passe mal pour nous. Je pense que la Terre est détruite.
Ça vous va, Agathe ? Ça vous fait plaisir ?
Impeccable, merci.
On est d'accord que si jamais le trou noir passe, il va déformer notre vision des étoiles. Mais est-ce qu'on peut voir à travers le trou noir ? Non, normalement.
Eh bien, en fait, on peut voir ce qui est derrière le trou noir. Mais on va pas voir à l'intérieur du trou noir, mais la lumière qui est derrière va contourner le trou noir et nous arriver. Donc on va voir ce qui est derrière et on va le voir de manière beaucoup plus grosse, beaucoup plus brillante que s'il n'y avait pas le trou noir.
Une partie des petits points rouges dont parlait David Elbaz tout à l'heure, on les aperçoit grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies devant, avec plein de choses à l'intérieur, y compris des trous noirs, qui nous permettent de faire un effet de loupe, qui nous permet d'aller voir beaucoup plus loin derrière, ce qu'on n'aurait jamais pu voir si on n'avait pas cet effet de loupe. Et nous avons une dernière question de Claude.
Oui, bonjour. Quel est l'avenir du trou noir ? A-t-il une fin ?
Est-ce que vous voulez répondre, Maïka ? Non, pas trop. David, moi je veux bien aussi, donc allez-y, je vous écoute.
Alors, d'après la théorie donc, de Stephen Hawking, les trous noirs rayonnent de la lumière. Donc, ils mettent un certain temps à rayonner. Un trou noir qui ferait un milliard de tonnes, une gigatonne, un milliard de tonnes, qui serait né au moment du Big Bang, exploserait là maintenant comme une bombe, là maintenant. Donc s'il y avait plein de petits trous noirs d'un milliard de tonnes, on verrait un véritable feu d'artifice, ça finit par exploser à la fin. Donc les trous noirs qui sont plus massifs que ça vont mettre plus longtemps à se transformer en lumière. Et au final, si on se projette dans un avenir très lointain, qu'on peut d'un point de vue théorique imaginer, on peut imaginer un avenir qui se mesure en milliards de milliards de milliards de milliards d'années, le destin d'un trou noir, c'est d'être de la lumière.
C'est joli. Hein, c'est beau, ces trous noirs-là. Du coup, nous arrivons maintenant au petit moment de son mystère. Alors, David Elbaz et Maïka Clavel, je suis absolument persuadé que vous le connaissez par cœur. Alexandre Astier, je me tourne donc vers vous. On va vous faire écouter quelque chose.
C'est moche ce que vous faites.
Je sais.
Non, c'est pas grave.
Et vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit. Je vous le dis franchement, c'est à moins que vous ne connaissiez déjà le son, c'est impossible que vous sachiez de quoi il s'agit.
Très bien.
Au moins, ça vous enlève la pression. Mais on va quand même l'écouter. poser et n'hésitez pas à nous dire ce qui vous traverse l'esprit.
J'ai droit à quelques questions ou pas?
Autant que vous voulez.
Est-ce que c'est un bruit géologique?
Non.
Est-ce que c'est un bruit de vent?
Alors je vais vous aider, c'est un petit rapport avec l'émission.
Je me doute puisque c'est dans l'émission. Mais je vais...
De vent non plus, non.
Ouais, ça peut être un rayonnement de trou noir transformé en onde sonore.
Oh, vous voyez, après deux petites tentatives, paf, vous allez quasiment au bon endroit. Alors, le son qu'on vient d'entendre date de 2015, je vais vous en faire entendre un autre qui date de 2025, de cet été. Ça donne ça.
C'est très beau en tout cas.
C'est de meilleure qualité hein, que le premier, on s'en rend compte.
Et il y a une fréquence basse régulière donc.
Oui, oui, oui. Vous n'étiez pas mauvais du tout dans votre tentative finale. Et pour nous expliquer un petit peu ce que c'est précisément, nous avons au téléphone Nicolas Arnaud, qui est chercheur CNRS à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon. Bonjour Nicolas Arnaud.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ce son qu'on vient d'entendre, sur ces deux sons qu'on vient d'entendre ?
Effectivement, alors comme vous avez dit, Alexandre Astier était pas loin de la vérité, puisqu'à l'origine, en fait, ce sont des ondes gravitationnelles. Un phénomène qu'on a observé pour la première fois il y a un peu plus de 10 ans, en septembre 2015, et qui, dans le cas des deux sons qu'on vient d'entendre, ont été produits par la fusion de deux trous noirs. Alors un peu comme on vous avait dit avant avec des trous noirs supermassifs, mais là les miens, entre guillemets, ils sont beaucoup plus petits, une trentaine de masses solaires chacun. Et donc ils ont fusionné il y a très longtemps dans l'univers et très loin, en produisant ce signal qu'on appelle des ondes gravitationnelles et qui a voyagé jusqu'à la Terre et qui a été ensuite découvert pour l'un en 2015 et pour l'autre début 2025.
Et alors ce son-là qu'on entend, Nicolas Arnaud, c'est pas du réel son audio?
Non, c'est les ondes gravitationnelles n'ont rien à voir avec des sons, mais il se trouve que ce sont des signaux qui oscillent à des fréquences qui sont compatibles avec celles que l'oreille humaine entend. Et donc on a un processus qui s'appelle la sonification, qui permet de transformer ce signal qu'on détecte dans des détecteurs très particuliers en son audible. Et donc on a un petit tac qui correspond vraiment au signal d'onde gravitationnelle, et le reste de ce qu'on entend, c'est plutôt le bruit de mesure qui vient avec les signaux auxquels nos détecteurs sont sensibles. Et je crois que vous avez dit que le deuxième signal était de meilleure qualité que le premier. C'est vrai. A priori, dans les deux cas, les deux trous noirs qui ont fusionné étaient assez similaires en masse et à peu près à la même distance dans l'univers. Par contre, il s'est écoulé 10 ans entre les deux signaux, et donc les détecteurs qui observent, qui cherchent ces signaux, ont beaucoup progressé, et donc ça fait que le deuxième signal ressort de manière bien plus claire du bruit, et permet de faire des mesures bien plus précises.
Et ce qui est exceptionnel, c'est que là, le son, il est répété, donc c'est le « whoop » qui correspond vraiment à la collision des deux trous noirs, et c'est en analysant le signal « whoop » là qu'on entend de répéter derrière nous, c'est là-dedans que se cache la masse des deux trous noirs et le trou noir final qui est le résultat de la fusion. On arrive, en étudiant juste ces signaux-là, à retrouver la masse des trous noirs initiaux, et donc de prouver notamment, comme l'a été fait cet été, le théorème de Hawking sur le fait que les trous noirs ne diminuent jamais de taille, ils ne font que grossir. Alors c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Hawking pendant cette émission, bon, pour des raisons personnelles déjà, mais aussi parce qu'il a été, dans les années 1970, un des seuls à s'intéresser à ces astres-là, à s'intéresser en réalité à la gravitation, alors que tout le monde était parti pour essayer de comprendre les particules. Et c'est un peu triste parce qu'un prix Nobel a été décerné il y a quelques années pour les trous noirs, et il aurait été dedans, évidemment, s'il n'était pas mort. Et les prix Nobel ne sont pas décernés aux personnes qui ne sont plus là. Donc c'était un peu triste pour ça, et je voulais juste deux secondes comme ça lui rendre hommage pour tout son travail sur les trous noirs. Alexandre Astier, vous vous rendez compte, dans ce petit whoop se cache la masse des deux trous noirs qui se rendent dedans, qui se tournent l'un autour de l'autre, peut-être quoi, Maïka Clavel ? 50 fois, 100 fois lors d'un signal comme celui-là, c'est à peu près ça, il me semble. David Elbaz, vous confirmez aussi.
Oui, et je voudrais dire aussi que ce travail qui a d'abord été détecté par les Américains bénéficie énormément du travail de Français, donc Thibaut Damour et Luc Blanchet, qui ont fait des calculs mathématiques prodigieux pour arriver à reconnaître ce signal dans un bruit. Là, on parlait du bruit, il y a un bruit extraordinaire partout, donc pour arriver à reconnaître ça, savoir ce qu'on attendait. Et ce que dit Thibaut Damour, qui m'a particulièrement touché, et m'a ému, c'est qu'il disait qu'à la fin de la fusion des deux trous noirs, il y a une relaxation du truc qui se comporte comme un trou noir. Et donc, c'est une autre des preuves de l'existence des trous noirs. C'est quand même très très beau de voir la preuve de ces objets dont Einstein lui-même a écrit un article pour dire que si mathématiquement ils peuvent exister, physiquement, c'est impossible, parce que c'est abominable.
C'est amusant ce genre de choses, parce que les désastres extrêmes comme ceux-là, notre esprit, il a du mal à s'y faire, qu'il puisse exister. Et l'outil mathématique nous permet quand même d'aller les explorer avant de les découvrir expérimentalement. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Nicolas Arnaud pour votre explication du son et des ondes gravitationnelles. Merci Alexandre Astier, votre film Kaamelott 2, première partie, est au cinéma. Merci David Elbaz, votre spectacle Dans les étoiles, c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et votre livre La plus belle ruse de la lumière, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci Maïka Clavel. Les événements grand public de votre observatoire à Grenoble sont à retrouver sur le site de l'Observatoire. Et évidemment, merci au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Jérôme Ragano, à la vidéo Gaspard Guy Bourget et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une émission avec deux scientifiques et une invitée mystère autour des champignons.